With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, qu'elle soit PC, console et même parfois mobile. En fait, je dis toujours et même parfois mobile, mais finalement on n'a pas énormément de news mobile parce que les vrais jeux, pour les vrais, c'est plutôt sur console et même sur PC plutôt, soyons honnêtes. Je voulais préciser que à l'épisode précédent c'était déjà le 30e. Donc là, c'est le 31e. J'avais fait un gros titre, machin, 30 épisodes incroyables, et puis j'ai oublié. Donc voilà, on a fait plus de 30 épisodes. Et pour une bonne partie d'entre eux, j'ai eu avec moi mon camarade J.K. Loret, qui revient encore aujourd'hui. Comment ça va, J.K.?
Eh oui, comme il est fidèle au rendez-vous, bah écoute, ça va très bien, et toi?
Bah écoute, je suis en forme, je suis prêt à parler de plein de choses comme les passionnants résultats d'Activision Blizzard, les fabuleux résultats d'Ubisoft, des infos sur la Xbox et son cross-platforming, mais aussi bien sûr des sorties Firewatch, Unravel, l'arrivée de Street Fighter bientôt, etc., etc. Et pour nous aider à décortiquer tout ça, on a Mathieu Hurel qui nous accompagne, que certains d'entre vous, chers auditeurs, connaîtront peut-être mieux sous le doux pseudonyme de Boule à Poire. Comment ça va, Mathieu ?
Ben ça va, merci, bonjour Patrick.
Tu viens t'ajouter à la collection de Pokémon Game Culture que j'agrémente petit à petit.
Donc je suis très fier. Tu essaies d'élaborer petit à petit avec des gens. Il y avait Oscar qui était déjà venu chez toi, je crois.
Il y avait Oscar, il y avait Exerve, il y a eu quelques personnes, ouais. Donc voilà, je suis content, ça j'en rajoute un. Celui-là c'est Flamèche, c'est ça ?
Exactement, type feu.
Bon, bah merci d'être avec nous, Mathieu. Donc tu vas nous aider à commenter tout ça et on va commencer avec avant ça, d'où ça vient Boule à Poire ? Je me pose la question depuis des années.
Ah, c'est la question à 1000 francs. J'ai plein de réponses.
D'accord.
Ça dépend laquelle tu veux. Non, la véritable, on va dire, c'était un collègue dans un magasin de jeux vidéo où j'ai bossé pendant pas très très longtemps, mais suffisamment pour bien le connaître, qui nous avait tous rebaptisés par des noms de fruits, donc c'était boule à fraise, boule à banane.
Ah voilà. Ok, d'accord.
Ça c'est l'explication originelle. Il y en a d'autres, peut-être pour un prochain podcast.
Ouais, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins safe for work, j'imagine, ou des trucs comme
ça. Ouais, oh, c'est pas forcément safe for work, d'accord. Enfin c'est surtout pas pour les enfants.
Ouais.
De l'alcool, voilà, on va dire
ça.
Ah
d'accord, ok, je vois ce que je veux dire, je vois ce que tu veux dire, ok. Bon, très bien, donc merci, bienvenue parmi nous dans cette fantastique fête du rendez-vous jeu, et on va commencer avec des sujets vraiment gamers, tu vois, nous on parle de jeux vidéo, et on va parler donc de résultats financiers, à savoir, bon,
ouh,
on va passer...
Sexy.
Ouais, c'est super sexy. On va pas passer 2 heures non plus sur les résultats, hein. On a déjà passé beaucoup de temps sur Nintendo, mais c'était un petit peu particulier la dernière fois. Là, en gros, Activision Blizzard, bah, ça va très très bien. Ils ont encore plus de chiffre d'affaires, encore plus de profits. Pour vous donner une idée des chiffres, on est à peu près à 4,5 milliards de chiffre d'affaires en dollars, hein, pour presque 1 milliard de bénéfices. Donc, c'est quand même pas mal du tout. 25 millions de comptes Destiny, 40 millions de comptes Hearthstone. On était à 30 millions il y a quelques mois à peine. Donc, Hearthstone continue à progresser. Pas de chiffres pour World of Warcraft, pour Heroes of the Storm ou même pour Call of Duty, qui reste malgré tout, c'était un petit peu la surprise de la franchise qui commençait, on pensait, à s'essouffler un petit peu ces dernières années, mais Call of Duty reste premier sur les ventes, donc quand même toujours un gros succès. Et Ils ont également annoncé qu'il y aurait, grosse surprise, un Call of Duty et un Skylanders qui arriveraient cette année. Par contre, là, pour le coup, c'est effectivement une surprise, sans ironie, Destiny ne sortira pas, la suite de Destiny ne sortira pas cette année, donc le Destiny 2 qu'on attendait ne sortira pas cette année. Peut-être qu'il sortira même dans l'année prochaine, c'est-à-dire en 2017, en septembre, c'est-à-dire au moment où les Destiny sont censés sortir, parce que cette année, il y aura une grosse extension. Alors, est-ce que ça sera une extension du calibre de Taken King, donc la grosse extension, ou des petits DLC type House of Wolves, etc. Bref, peu importe, ils ont vraiment décidé de décaler la sortie du Destiny nominal, peut-être d'un an, en tout cas de plusieurs mois. Donc voilà, rien d'incroyable, hein. Du côté d'Activision Blizzard, tout va bien. Des commentaires là-dessus.
C'est vrai que on l'avait déjà un peu senti venir quand même le coup du report de Destiny, étant donné que Kotaku avait eu des fuites, enfin des informations comme quoi le jeu allait être repoussé vu qu'ils avaient du mal à faire la suite. Je crois qu'ils bossent en fait sur un moteur encore amélioré pour Destiny 2, et du coup ils veulent continuer à travailler en parallèle sur la deuxième extension du coup, pour pouvoir occuper un peu les joueurs, parce que c'est vrai que Destiny, ouais, quand même ça fonctionne exclusivement comme ça, c'est toujours un petit peu, tu fais un peu toujours la même chose, mais quand il n'y a plus de contenu, c'est un peu compliqué, quoi.
C'est ça, ouais, on l'avait évoqué la dernière fois, c'est la mécanique de MMO Endgame, tu refais le même contenu ad vitam, et c'est sûr que là, on en manque, quoi.
Ouais. Et ce qui est intéressant par rapport à Call of Duty, c'est vrai que c'est là qu'on voit aussi que la puissance, au-delà de Call of Duty, c'est la puissance de la licence Black Ops, parce que depuis maintenant quelques épisodes, je crois depuis même le 2, c'est la plus grosse vente dans Call of Duty, quoi. Dès qu'il y a un Black Ops qui sort, les ventes grimpent en flèche, parce que je crois que celui d'avant, même celui encore d'avant, c'était pas vendu extrêmement bien. Voilà, enfin il y a eu
Advanced Warfare,
il y a eu Ghost, donc qui est une catastrophe. Et en plus, après, a priori, celui-là démérite pas au niveau qualité. C'est plutôt un bon Call of, c'est plutôt une bonne cuvée, donc de la dire que le succès est mérité, je sais pas, mais en tout cas, non, mais disons que la licence Black Ops est toujours aussi forte, et c'est quand même intéressant.
Je sais pas si c'est la licence Black Ops ou laquelle, parce que de tout ce que j'ai entendu, cette édition était vraiment bonne.
En même temps,
il y a beaucoup de gens qui disaient que Advanced Warfare l'année d'avant était bien aussi.
Oui, voilà. Ouais.
Et pourtant.
Et puis c'est vrai que pour Blizzard, c'est aussi intéressant parce que je trouve qu'ils ont tellement réussi à rebondir, dans le sens où c'est vrai que les ventes de WoW diminuent, hein, fatalement, et je trouve qu'ils ont réussi ils arrivent à contrebalancer ça grâce au succès d'Hearthstone, qui est complètement dingue. A priori, le succès des Rose of the Storm qui débute bien. C'est un tournant intéressant. Je sais pas si c'est un tournant que moi j'apprécie particulièrement, parce que c'est pas forcément des jeux qui me parlent vraiment. Mais financièrement, ils s'en sortent très très bien, quoi.
Ouais, bah c'est sûr que ils ont bien opéré la transition. Ils ont vu venir le ralentissement, parce que ça reste correct. Hein, bien sûr, comme toujours, disclaimer, j'ai travaillé pour Blizzard pendant très longtemps, donc je suis pas forcément complètement objectif, mais même si j'essaye de l'être. Mais même Heroes of the Storm, on parle de quelques millions de joueurs réguliers. On a tendance à être obnubilé par League of Legends ou Dota, qui ont pour le coup des dizaines de millions de joueurs réguliers. Il semblerait que Heroes fasse quand même des sous de toute façon, donc c'est pas que ça soit même s'ils ont pas réussi à prendre la place du roi des MOBA, ils font quand même de l'argent. Je pense que c'est pas une opération.
Je pense qu'il y a quand même des grosses miettes à ramasser derrière League of Legends.
Oui, là, et moi, je suis parmi, depuis 2 mois, je fais partie de ceux qui leur donnent des miettes, les miettes en question.
t'as réussi à craquer, t'as réussi à t'y faire.
Ah oui, moi, Heroes, maintenant, je suis, pendant 2 mois, depuis début décembre, quand ils ont eu leur promo et leur Shogal là, qui est arrivé, ou qu'on pouvait jouer à deux, je me suis plongé dedans, et de là que j'avais pas du tout aimé le jeu avant, mais vraiment pas, hein. Pendant 1 an et demi, 2 ans, je suis pas rentré dedans. Là, j'étais à fond et j'ai dépensé une centaine d'euros dedans, quelque chose comme ça.
Ah oui, d'accord.
Donc, je sais pas, c'est la sauce magique Blizzard, tu vois, la petite poudre d'étoiles.
Ça marche plus les notes de frais pour toi, là, chez Blizzard.
Ah bah non, maintenant. Non, dommage. Malheureusement. Bon, et sinon, ils n'ont effectivement, ils ont eu plus une augmentation de 25% de monthly active users sur Battle.net par rapport à l'année dernière. Donc là aussi, il y a une progression sans doute due en partie à Hearthstone. Donc même s'ils donnent pas des chiffres, ils disent que ça va mieux. Ce qui est, bah écoutez, tant mieux pour eux. Une autre boîte, malheureusement, où là ça va un petit peu moins bien, et un petit peu est un euphémisme, c'est Ubisoft. Ils ont un chiffre d'affaires qui va quand même beaucoup moins bien, effectivement. Pour la période d'avril à décembre, on est descendu de 1,3 milliard, là on parle en euros par contre, à moins de 800 millions. Et évidemment, les ventes de Assassin's Creed étant en chute libre, là pour le coup, la licence n'a pas réussi à se maintenir, contrairement à Call of Duty. On a eu une chute des ventes constante depuis 3 épisodes. Et donc, il prévoit quand même un résultat correct pour l'année fiscale 2015 qui se termine dans 3 mois, parce qu'ils attendent Far Cry et The Division, qui devraient être des succès, enfin en tout cas qui devraient ramener de l'argent. Par contre, il y a une décision qui a été relativement mal accueillie par la bourse, ce qui les place dans une position dangereuse, et on va en reparler dans un instant. Mais donc, ils ont décidé de ne pas sortir d'Assassin's Creed cette année, en 2016, pour laisser le temps à la série de respirer, pour revoir peut-être un petit peu les fondamentaux du jeu, ce qui est peut-être pas une mauvaise chose, hein. Je pense que tous les gamers seront d'accord. Et ils ont par contre Watch Dogs 2 qui devrait sortir avant avril 2017. Donc ce que ça veut dire, c'est dans la prochaine année fiscale. Donc ils ont quand même un gros titre, parce qu'il faut se rappeler que Watch Dogs, malgré sa réception un petit peu tiède, sans doute, enfin en partie due au graphisme qui était très loin des trailers, Watch Dogs s'était très très bien vendu malgré tout pour Ubisoft. Donc cette annonce d'Assassin's Creed a beaucoup refroidi la bourse, et ils ont perdu une bonne partie de leur capitalisation boursière, ce qui ne serait pas en outre enfin plus dramatique que ça, puisqu'ils ont a priori un plan de route sain, et que les aléas de la bourse, bon bah ça chute maintenant, la bourse n'attend que des résultats à court terme, c'est les perspectives de croissance qui les intéressent. Donc le fait que l'action Ubisoft chute n'est pas si surprenante que ça, quand on annonce qu'il n'y aura pas dans l'année qui vient le gros titre que tout le monde attend. Mais le problème, c'est qu'il y a Bolloré, enfin le problème, la conséquence, c'est qu'il y a Bolloré et Vivendi en embuscade, qui, on le sait, s'intéressent à Ubisoft depuis un moment avec Gameloft. Et là, avec la chute de l'action, ça veut dire que pour s'offrir une majorité des parts d'Ubisoft, ils auraient besoin de beaucoup moins d'argent, ça serait beaucoup plus réalisable. Bref. Petit méli-mélo financier et financeau prévisionnel de jeu. Vous en pensez quoi, vous, JK?
En premier, d'accord. Je voulais laisser la parole à Mathieu. écoute, c'est pas évident pour eux. C'est vrai que c'est une décision hyper difficile d'annoncer pas d'Assassin's Creed cette année, qui est très difficile financièrement. La réaction de la bourse entre guillemets est compréhensible. Après, pour les joueurs, c'est une très bonne idée. Ça fait au moins 2 épisodes que tout le monde dit faut vraiment qu'ils revoient complètement leur modèle de fond en comble, et qu'enfin ils nous fassent un vrai Assassin's Creed next gen, tout simplement, enfin new gen, parce que mine de rien on est sur les mêmes bases depuis le premier, je sais pas quand est-ce qu'il date, mais peut-être 2009, un truc comme ça. Donc c'est quand même hyper intéressant. Après, ils prévoient, enfin bon, moi je sais pas, c'est évidemment impossible à dire, mais le succès de Far Cry Primal et surtout de The Division n'est pas acquis, hein. Enfin The Division pour le moment,
Ouais, c'est surtout The Division. Moi,
ouais, c'est ça. Disons que l'accueil est tiède par rapport à toutes les bêtas. Ce sera un petit succès d'estime, mais est-ce qu'ils vont rentrer dans leur frais, c'est pas du tout acquis, quoi.
Bah, moi, je le vois un peu comme sceptique aussi.
Bah, The Division, oui, pas mal. Après, c'est vrai que il y avait la même avec The Crew, notamment, donc le jeu, le MMO de voiture qui était sorti l'année dernière. Ouais. Et on n'y croyait pas trop. Et puis finalement, ça marche pas trop mal, visiblement, pour Ubisoft. Donc, je pense que pour un jeu qui a eu un développement aussi long, les deux ont une trajectoire un peu identique, même si The Division a été annoncé il y a beaucoup moins longtemps que The Crew. C'est des jeux qui ont coûté très très cher à Ubisoft, et du coup, pour les rentabiliser, il va falloir qu'ils jouent à fond, notamment sur les microtransactions, je pense, du côté de Division.
Ah oui, tu penses?
Ouais, je pense qu'il y aura pas mal de trucs de ce côté-là. Après, c'est juste une estimation, hein. J'ai pas d'informations plus précises que ça, mais ça me paraît quand même.
C'est typiquement le genre de jeu, en plus, où ils peuvent très bien avoir un système de microtransactions. Ça, c'est.
Oui, bah.
Ils le font déjà dans Rainbow Six.
Oui, je pense qu'ils vont pas se gêner pour remettre au moins un petit peu. Après, pour la question d'Assassin's Creed, c'est vrai que ça faisait déjà un petit moment que on sentait qu'il y avait un peu de fatigue dans les épisodes. Moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était le Assassin's Creed 4, du coup, qui s'appelait Black Flag. Qui était le seul d'ailleurs à avoir un sous-titre en plus de son chiffre. On sentait bien qu'ils avaient voulu le faire rentrer un peu au chausse-pied dans la saga, alors qu'au départ c'était un jeu qui n'était pas imaginé, si je me souviens bien, comme un Assassin's Creed. En fait, ils étaient partis sur des bases complètement différentes. Ils voulaient faire un jeu de pirate parce que le mini-jeu des bateaux fonctionnait bien dans le 3. Et du coup, ça avait quand même donné un peu d'air frais, je trouve, à la série.
C'est vrai que c'est le truc dont tout le monde avait apprécié, c'était la partie combat naval.
Ouais. Navo, non.
Navo, même.
Non, je crois que c'est naval, non.
Navix, non, je sais plus.
Navux, ouais.
Mais c'était...
Non, parce que c'est les chantiers navals, donc c'est combat naval.
Oui, ouais. Oui, tout à fait. Effectivement. Mais c'est vrai que là, il y avait pas mal de rumeurs sur le prochain assassin. Pareil, bah, Kotaku qui avait leaké pas mal de trucs, notamment le fait que ça se passera peut-être en Égypte. Il y a tout un truc de ce côté-là. Mais c'est quand même une série qui commence à avoir besoin de se refaire, sans forcément que ça soit juste une histoire de changement de nom, parce que là maintenant ils ont épuisé la carte de on enlève les chiffres et puis on va mettre des sous-titres ou des adjectifs, des trucs comme ça derrière un peu éparpillé pour faire oublier depuis combien de temps ça dure, en fait.
Ouais,
c'est toujours
c'est
le problème des grosses séries.
Autant ouais, d'ailleurs, c'était 2007, hein, même pas 2009.
Ah, ouais, 2007, ça fait 10 ans quasiment, ouais. Quoi. Mais en fait, là, enfin, moi, je pense que ça sent même quasiment le reboot. Hein. Je vois bien un Assassin's Creed, juste qui va s'appeler Assassin's Creed, sortir en 2017 en façon Tomb Raider, tu vois. Genre, on va pour dire, on remet les pendules à zéro et on sort un vrai truc nouvelle génération.
Ouais.
Et ouais, faut voir.
Ça, oui, ils ont une nouvelle version du moteur, c'est la même, hein, c'est comme pour toutes les grosses séries, ils sont en train de bosser sur une version, ils avaient le dernier gros revamp, c'était sur Unity, il me semble.
Et, ouais, bah oui, avec la sortie, la première ouais. Version next-gen, ouais. Qui était très beau d'ailleurs, graphiquement, ah, oui. C'était l'une de mes claques, de mes premières claques next-gen, Unity, hein, il était incroyable.
Il y avait vraiment des trucs très très bien.
Hein. S'il y a bien une chose qu'on pourra pas reprocher à Assassin's Creed, c'est qu'à chaque fois c'est des vitrines technologiques. Hein. Ouais. Visuellement, ça a toujours été sublime. Donc là-dessus, moi je m'inquiète pas pour la suite. Hein.
Bah à vrai dire, d'une manière générale, c'est vrai que comme vous le dites très bien, il souffre d'un certain essoufflement ce jeu, enfin cette série. Mais il reste quand même bon, quoi. Je veux dire, il y a énormément de gens qui l'apprécient. Ça reste un bon jeu, quoi qu'il arrive. Il a été très bon à une époque parce qu'il était intéressant au niveau open world, ce qu'il amenait dans cet espace de jeu. Il reste bon aujourd'hui. Il s'essouffle, c'est sûr, mais je pense que la plupart des critiques disaient pas bon bah faut arrêter et tout revoir de fond en comble. La plupart des critiques disaient il faut reprendre la chose sur des bases saines pour pouvoir modifier ce qui a besoin d'être modifié, mais pas. Enfin, je veux dire, la base est quand même bonne. La base du jeu est excellente, quoi. Donc,
bah, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Assassin's Creed, c'était un petit peu aussi une reprise en main de Prince of Persia, qui elle était complètement hors jus, on va dire, depuis au moins un ou deux épisodes, et que bah, quand Patrice Désilet a lancé le chantier du premier Assassin's Creed, au départ, c'était un Prince of Persia. Hein. Après, ça s'est transformé. Ils ont voulu rajouter plein de trucs, donc c'est devenu une licence à part. Mais je pense que là, ils ont moyen de faire un nouveau truc sans se débarrasser d'Assassin's Creed, parce que c'est quand même c'est quand même très très porteur. Mais enfin, quand on parle aux gens, à la limite, Ubisoft ils connaissent pas, mais Assassin's Creed ils voient tout de suite de quoi on parle, quoi. C'est comme c'est pas au niveau de Mario et Nintendo, mais ça reste quand même une grosse marque. Oui.
c'est sûr qu'ils ont réussi à construire un truc assez fou avec Assassin's Creed. Ils sont enfermés dans ces sorties annuelles comme d'autres. Mais alors, il y a deux questions du coup que je voudrais poser. D'une part, est-ce que ils n'auraient pas pu continuer à développer un Assassin's Creed annuel et en parallèle avoir une autre équipe qui développerait un gros Assassin's Creed revu de pas de fond en comble, mais enfin repensé. Et d'autre part, cette histoire de bourse, j'ai vu beaucoup de gens dire « Ah, voilà, la bourse, ils comprennent rien, c'est que des abrutis. De toute façon, il y a le film Assassin's Creed qui arrive, donc on aura des trucs. » Enfin, moi, j'ai trouvé ça un petit peu simple comme vision. Oui, évidemment, la bourse, ils sont pas là pour promouvoir la, la culture et l'art.
La création.
Mais
et
voilà,
l'art.
C'est pas, donc c'est normal que la bourse réagisse comme ça. Ça, ça n'est pas un jugement sur la, la qualité artistique et créatrice de la société. C'est juste un jugement sur ses capacités financières sur les 6 mois, 1 an à venir. C'est tout.
Mmh. Et puis bon, le film, c'est quand même différent. C'est du cinéma. Je suis même pas sûr que le, enfin, je pense pas que le film fasse autant d'argent que les jeux, quoi. Ça va rester. Je sais pas si le film va marcher, j'en sais rien, mais je vois mal le film remplacer, entre guillemets, la sortie de, du Assassin's Creed annuel. C'est quand même pas la même chose.
Hein. Ouais. Bah, surtout, surtout en termes de revenus. Hein. Quand t'as une, une place de Cinoche à 10-15 euros et un jeu à 50-60, tu sens la différence dans les résultats. Ça coûte pas non plus la même chose à faire, mais je pense que le film a pas dû coûter 3 centimes non plus, vu le casting.
Ouais. Et, non, c'est sûr.
Depuis le temps qu'ils sont dessus. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi par rapport à Ubisoft, pour rebondir par rapport à la suite, en fait, c'est qu'ils ont aussi annoncé pendant les résultats financiers qu'ils avaient une nouvelle IP, donc une nouvelle propriété intellectuelle qui allait être annoncée sur l'année fiscale, la prochaine année fiscale. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez important, je pense, parce que étant donné qu'on est dans l'année où il y a sûrement la NX, ou du moins une partie de la NX qui va arriver, je vois bien Ubisoft aller de ce côté-là, étant donné qu'ils ont souvent été au lancement des consoles. Ils ont toujours voulu avoir un nouveau projet pour la Wii U. C'était Zombie U notamment qui était sur le feu. Mais ils ont toujours eu un projet next-gen au lancement pour pouvoir profiter au maximum de l'effet d'aspiration, on va dire, d'un lancement d'une console. Et comme Noël là s'annonce plutôt calme, on va dire, au niveau nouvelle machine. Et ce côté-là, moi je les vois bien aller vraiment du côté de chez Nintendo.
Mmh. Ouais, ça serait pas une mauvaise idée pour eux, c'est sûr que bon, en même temps au lancement les machines forcément il y en a pas énormément, mais ça peut leur permettre de s'établir, quoi.
Ouais, après leur problème c'est qu'ils sont toujours au rendez-vous, en tout cas sur le lancement d'une machine Nintendo, mais ils se barrent vite, ils se barrent assez vite quand même.
Oui. Ah bah, ah sur oui, la Wii U, oui,
tu vois, sur la génération d'avant, t'avais le jeu de sabre, là, j'ai oublié le nom.
Red Steel,
voilà, ils en ont fait un deuxième, mais bon, qui a joué, enfin.
Ouais.
Voilà. Quoi.
Bon.
Là, c'est les lapins et.
Oui, ouais, c'est vrai. Il y a les lapins cartonnés, ouais. C'est vrai.
Oui, c'est vrai que les lapins, d'ailleurs, ça a disparu depuis un moment quand même. On les voit plus trop, mais.
Bah, on les voit à la télévision.
C'est ça.
Sur les parcs d'attractions.
Les lapins crétins, c'était un pur produit du motion gaming. Donc, le motion gaming aujourd'hui a quasiment disparu. Voilà, quoi.
Bon, écoutez, passons maintenant à Microsoft et leur projet un petit peu bizarre. Alors, on a eu une annonce... ah oui, tiens, je voulais mentionner très rapidement, puisqu'on parle de Nintendo, le Quality of Life a été rangé au placard. Je l'avais mentionné dans d'autres émissions, mais voilà, c'était juste pour le dire rapidement. Donc, Quality of Life, Nintendo va se concentrer sur les jeux vidéo. C'est peut-être pas plus mal. Xbox et Microsoft, donc on a eu l'annonce assez surprenante il y a quelques jours de ça, du fait que Quantum Break serait disponible sur PC également, et pire que ça, disponible au moment de la sortie Xbox. Alors Quantum Break, c'est un jeu de Remedy de Remedy Software, qui était censé être une exclusivité Xbox. Et donc c'est pour ça que ça a été quand même très surprenant qu'il arrive aussi sur PC. Mais non seulement ça, il y aura une version PC qui sera offerte à tout acheteur de la version Xbox One. Et en plus de ça, tout acheteur de la version Xbox One recevra également une Alan Wake, donc un précédent jeu de Remedy, qui sera compatible avec la Xbox One. C'est un jeu Xbox 360. Donc avec cette annonce, il y a eu pas mal de points d'interrogation qui sont affichés au-dessus des têtes de beaucoup de gens, dont moi. Et on savait pas très très bien ce que faisait Microsoft avec tout ça, d'autant plus que on a entendu des rumeurs selon lesquelles d'autres exclusivités Xbox One pourraient suivre le même chemin. Ça a été confirmé pour des jeux comme Record, enfin d'autres. Et on a eu la confirmation ensuite que c'était une vraie volonté de Microsoft maintenant de traiter le gaming Xbox comme un... Alors, on n'a pas eu la confirmation, mais en tout cas, des rumeurs commencent à voler un petit peu partout, selon lesquelles la Xbox One ne serait plus forcément uniquement la console. Ils gardent leur concentration sur la console parce que c'est en fait un PC de jeu bon marché. Et comme le disait Daniel dans l'épisode précédent, la compétition, la concurrence entre console et PC de jeu n'existe pas forcément parce qu'il y a plein de gens qui ont des PC, mais s'ils veulent jouer, eh ben ils ont le choix entre un PC très très cher et une console qui aujourd'hui coûte moins de 300€, donc c'est pas du tout le même produit, mais Microsoft serait en train de réfléchir à l'idée d'avoir l'abonnement Xbox Live Gold devenir une sorte de service qui serait disponible sur différentes machines, la Xbox ou les PC. Petit méli-mélo comme ça d'informations à propos de qui sont partis de cette compatibilité PC de Quantum Break. Ça vous inspire quelque chose? C'est intéressant, c'est étrange, ça vous laisse perplexe? Commençons par Mathieu du coup là.
Moi je trouve que c'est vraiment dans leur logique historique, puisque Microsoft a toujours été quelqu'un qui a d'abord essayé de vendre du logiciel. Et du coup, le fait d'abolir, entre guillemets, la plateforme sur laquelle ils peuvent distribuer tous leurs produits, c'est un truc qui est complètement dans leur philosophie et qui, en plus, leur permettrait de concurrencer tout ce qu'il y a du côté de chez Sony, parce que Sony fait exactement la même chose avec son abonnement PlayStation Plus. Au-delà du fait de pouvoir jouer en ligne, maintenant il faut payer sur les consoles next-gen, c'est devenu un acquis. Il y a le côté, on a des jeux régulièrement et on peut y jouer sur quasiment toutes les machines Sony dès que les jeux sont disponibles, que ce soit Vita, PS3 ou PS4. Et je pense que eux, ils veulent vraiment aller à fond là-dessus. C'est pas pour rien qu'ils ont revu, en tout cas, que leur architecture Xbox One a été retapée pour que ça colle avec Windows 10. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux, à mon avis, qui vont aller de ce côté-là. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que, visiblement, ils vont se passer d'une sortie sur Steam pour Quantum Break. Ouais. C'est-à-dire que ça sera sur le store Microsoft et puis basta. Comme avait pu le faire Electronic Arts avec certains de ses jeux qui étaient disponibles que sur Origin pour la version PC. Moi, je trouve ça logique. Dans leur philosophie de par rapport aux jeux vidéo, eux c'est vraiment le jeu vidéo comme un service, comme pourrait l'être tout leur logiciel
Office 365, tout ça, ouais.
C'est vraiment des trucs où ils veulent toucher un maximum de, enfin ils offrent un maximum de services avec sur un maximum de plateformes à la fois. Moi ça me semble tout à fait raccord avec ce qu'ils ont toujours voulu faire.
Après, je trouve, par contre, en termes d'image pour la Xbox One, c'est quand même pas très bon, parce que ça envoie un message en disant, finalement, les exclus Xbox One, vous les aurez aussi sur PC. Moi, à titre personnel, tu vois, Quantum Break, ça fait partie des quelques jeux, des quelques exclus Xbox One que je m'aurais sans doute prise, assez vite à la sortie. Là, le jeu sort sur PC, pareil pour Record, pareil pour Sea of Thieves, a priori, le prochain jeu de Rare.
Fable
Legends, je crois qu'il avait déjà été annoncé sur PC, il me semble, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à la One en exclu à part Forza et Halo et peut-être Gears, et encore on n'est pas à l'abri de la sortie d'un Gears 4 sur PC.
Je crois que Gears 4 arrivera sur PC aussi.
Clairement. Donc oui, c'est logique, je suis tout à fait d'accord avec Mathieu, mais derrière est-ce qu'ils sont pas complètement en train de lâcher la Xbox One en disant ça reste un élément de l'écosystème Windows, mais ils vont plus du tout la mettre en avant, quoi.
Moi je suis pas, disons que c'était un petit peu mon analyse comme ça à froid. Je me disais parce qu'en plus j'avais été douché par Tomb Raider qui sortait finalement 2 mois après la sortie Xbox sur PC. Je me suis dit mais on m'abandonne, on me trahit, Microsoft tout coquet fini quoi. C'était vraiment le poignard dans le dos. Ouais. Et en fait en y réfléchissant je me dis que d'une part c'était enfin c'est une stratégie qui a peut-être été poussée par les résultats un petit peu décevants de la Xbox One, mais en même temps, quand tu vois la situation dans laquelle ils sont, cette stratégie n'offre que des avantages, et même aux utilisateurs de Xbox, finalement, ça ne retire pas énormément, parce que comme le disait, bah, je le précisais, mais Daniel l'avait dit, une Xbox, c'est un PC de jeu à 250 euros, on va dire, ou 300 euros, allez, disons 300 euros, et donc c'est presque pas le même segment que le PC. Nous, on est un petit peu particulier. Ouais, nous, on a on fait partie des 5% de gamers qui ont un PC de furieux et plusieurs consoles, et donc on se dit ah bah merde, quelle console pourquoi est-ce que j'ai acheté cette console? J'ai déjà 12 plateformes sur lesquelles je peux jouer à d'autres trucs. Oui, mais la plupart des gens, ils ont pas de PC de jeu, donc.
Alors moi, je précise que j'ai un PC moins puissant qu'une Xbox One. Hein,
ah bah voilà. Donc il y en a même consoleux, parmi les journalistes. Mais du coup, ça ajoute à la plateforme, s'ils se mettent à développer très facilement et à pousser les gens à développer pour Xbox et PC, ça veut dire que leur parc installé, finalement, augmente de, je sais pas moi, 20 millions de Xbox One à 20 millions de Xbox One, plus je sais pas combien de PC gamers il y a qui sont installés, mais plusieurs dizaines de millions. Donc il rattrape, voire il dépasse tout de suite Sony. Donc pour les développeurs, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant, et ça offre une base installée qui est beaucoup plus importante. Et si effectivement on se met à avoir des jeux, là c'est une vision sur le moyen terme, hein, c'est pas dans les mois à venir, mais sur un an, deux ans, on a la possibilité, avec un abonnement Xbox Live Gold, d'avoir des jeux sur PC gaming et sur Xbox, et peut-être sur d'autres choses, disons des téléphones Windows ou je sais pas quoi. Ça crée un écosystème qui bénéficie à Microsoft de toute façon. Finalement, ils s'en foutent que t'achètes ton jeu sur Xbox ou sur PC du moment où tu vas l'acheter.
Vas-y, je t'en prie.
Mathieu, vas-y.
Bah, c'est en fait la différence avec Sony, par exemple, c'est que Sony a jamais caché quand ils avaient des exclus, que c'était des exclus console et qu'il y aurait une version PC. L'exemple en date, on va sûrement en parler tout à l'heure, c'est Street Fighter V. La grosse différence, c'est que Microsoft a la possibilité de bloquer, enfin déjà gagne de l'argent sur les sorties PC s'ils passent par le Microsoft Store, ce que n'a pas Sony en fait. Eux, ils ont toute la partie PC. Ils sont dépendants du développeur qui va le mettre la plupart du temps sur Steam ou sur d'autres plateformes. Là, Microsoft peut se permettre de bloquer l'accès à ces jeux pour en faire des exclusivités. Quand c'est des exclusivités Microsoft, ils n'ont aucun intérêt à le mettre sur Steam, ou du moins dans un premier temps, parce que ça, faudra voir aussi dans quelle mesure les gens vont passer par le Microsoft Store, parce que le Steam est tellement ancré dans les habitudes des joueurs que quand on leur dit que ça sortira pas chez leur distributeur favori, ça fait des tollés.
Surtout que le Microsoft Store, enfin le Windows Store, est un poil clunky, on dit en anglais.
Un poil merdique.
C'est le Uplay de Microsoft.
Et puis en plus, enfin, c'est aussi une façon effectivement pour Microsoft d'encourager, voire de forcer les gens à passer à Windows 10, hein, parce que donc le jeu sera exclu Windows 10. Windows 10, et là ils ont quand même des méthodes, pour encourager les gens depuis quelques temps à passer à Windows 10. Alors ça reste gratuit évidemment, et moi je suis très content de Windows 10, hein, mais avec en plus un truc comme ça, la personne qui joue sur PC, qui n'a pas de console et qui veut pas pour le moment passer à Windows 10, bah il aura pas trop le choix s'il veut jouer à tous ces jeux-là, clairement quoi.
En tout cas, c'est vrai que ça va être intéressant de voir comment ils se démerdent avec Windows, enfin leur relation avec Steam qu'ils ont beaucoup soigné ces derniers temps. Va falloir sur Steam se remet pas à dire bon bah nous on retourne du côté de la Steambox qu'ils ont quand même gardé sous le coude, et puis l'acceptation effectivement des joueurs de du Windows Store qui est pas évidente, parce que ils risquent de devoir travailler un petit peu dessus pour peut-être qu'ils vont sortir un Windows Store spécial jeu. Ça, ça pourrait être une bonne idée.
Ouais. Bah, un truc à la Steam, quoi, un client ouais, installé ça, en ouais. plus.
Bon, mais qui serait juste une nouvelle interface pour ouais, les ouais. jeux pour le Windows Store. Et... Bon, on a une conférence Microsoft dans une dizaine de jours. J'imagine qu'on va entendre parler de ces projets-là. Donc, on pourra vous en dire plus à ce moment. Bah c'est tout pour nos grosses news. On va quand même vous parler des sorties du moment et des petites news qui suivent. Il y en a un petit paquet aussi. Entre-temps, je vais vous parler d'une review iTunes qu'on a eue. Je voudrais remercier très chaleureusement le dénommé Remix Indamix, dont j'imagine qu'il dépote sur les dance floors, qui nous dit le podcast nécessaire. Il dit vous aimez le monde du gaming, alors cliquez le podcast sur les jeux vidéo et leur industrie, mélange de culture, chiffres, avis, avisés et humour, tout ceci supporté par un travail d'un sérieux rare et addictif. Merci infiniment à Patrick Béja pour ton regard, ton travail et ta capacité à savoir t'entourer. Je pense que mes invités du jour seront d'accord. C'est signé Rémi X. Merci beaucoup à toi. Si comme lui vous voulez filer un tout petit coup de main au rendez-vous jeu, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire et une review quelques étoiles sur iTunes ou sur votre application de podcast de choix. Ça nous aide à gagner en visibilité, vous le savez, et donc ça nous aide à nous faire découvrir par d'autres auditeurs. Je vous remercie d'avance de vos petits commentaires. Donc, commençons par les sorties, tiens. Et puis, il y en a un auquel à laquelle aucun d'entre nous n'a joué, donc ça va être vite fait. XCOM 2, bah, c'est comme XCOM 1 en mieux. Voilà. C'est à peu près ça. Hein.
C'est, oui, à peu près. Mais c'est, non, mais c'est vrai qu'il se prend des reviews incroyables. Là, le jeu est a priori très très bon. Moi, je l'ai quand même lancé. Hein. J'ai malheureusement pas eu le temps parce que c'est très chronophage. Je sais que j'ai des collègues chez ZQSD, notamment Walou. Et il est en train d'y perdre toutes ses nuits et son sommeil.
Il en peut plus.
Mais non, le jeu est très bon. Je crois que c'est un des rares neufs. Enfin, c'est le seul neuf depuis le début de l'année chez Gamekult. Bolopar, je sais pas si tu confirmes.
Je crois que
depuis le début de l'année.
Depuis le début de l'année, ouais, ça doit être le seul, ouais. Parce qu'il y avait Darkest Dungeon qui avait failli l'avoir, et puis on était un peu revenu sur sa notation. Mais je l'ai juste vu tourner, en fait, vu que Gotoz est juste à côté de moi au boulot. Et c'est vrai que j'adore les tacticals. J'ai un peu de mal avec l'univers, moi, c'est surtout ça, en fait, qui me refroidit un petit peu, parce que là,
t'aimes pas les petits
gris. Le jeu est quand même. Les petits gris et puis le tout est fluo en fait dans ce jeu là, c'est assez bizarre. Mais ça a l'air stratégiquement, ça a l'air super bien poussé, surtout qu'ils sont allés dans une direction très très différente de celle du premier, en tout cas du reboot des reboots d'XCOM où c'était plus des jeux de campeurs un petit peu. Là ils te poussent un petit peu aux fesses pour que t'avances le plus possible et que tu te sois pas toujours caché dans ton petit coin à attendre de zigouiller les mecs qui vont passer dans ton champ de tir. Donc j'aime bien ces idées là pour renouveler un peu le tactical, on va dire.
Ouais, c'est vrai que j'ai pas entendu une seule personne qui aimait XCOM 1 me dire que XCOM 2 n'était pas bon. Donc je crois que si vous avez apprécié le premier, c'est peut-être votre cam, donc vous y allez les yeux fermés. Firewatch, celui-là, par contre, on y a joué. Moi, j'ai fait le début ce week-end, et c'est vrai que c'était un jeu que j'attendais pas mal. Et alors, on va évidemment essayer de ne rien spoiler du tout. Moi, j'ai carrément arrêté d'écouter l'émission de Gamekult en cours de route quand vous avez commencé à en parler.
Alors, je précise qu'il faudra pas que t'écoutes le prochain de QSD. Alors, parce que
d'accord, ok.
Parce qu'on en parle aussi.
Ouais, bah en fait, c'est vraiment un jeu histoire. C'est limite un walking simulator, comme on les appelle parfois. Moi qui étais très très fan de Gone Home et de ce genre de jeu, enfin non, même pas de ce genre de jeu en fait, c'est surtout Gone Home que j'ai beaucoup aimé, mais dans Firewatch, tout ce qu'on savait du jeu, c'est que ça avait l'air d'être bien écrit et que l'ambiance était bonne, et on savait rien d'autre. Et finalement, quand j'ai lancé le jeu, je me suis retrouvé dans exactement ce que j'attendais, c'est-à-dire une écriture magistrale, un jeu d'acteurs parfait, absolument parfait, et une ambiance vraiment réussie. L'introduction, effectivement, je vais pas spoiler, mais je crois que j'ai presque jamais vu ça dans aucun média, ou presque, peut-être limite dans un film Pixar, dans l'introduction de Up ou un truc comme ça, où ils réussissent en quoi, 5 minutes de... ce que je veux dire, c'est qu'ils réussissent en 5 minutes à t'expliquer toute une vie d'un truc qui sait et à t'investir émotionnellement dans ouais. les personnages. Tu vois, c'est quoi? Il y a peut-être 10 écrans de
oui,
texte.
Et c'est que du texte alterné avec des images et c'est incroyable. Enfin, c'est une des intros les plus fortes que j'ai vues avec peu de moyens. Moi, j'ai trouvé cette intro, déjà, c'est plombant, quoi. Déjà, tu commences là, ok. Et puis après, heureusement, le jeu est drôle. Enfin, le jeu est extrêmement drôle, malgré tout, malgré le propos, malgré certains trucs très tristes.
Ouais, c'est ça qui fonctionne, en fait.
Ouais, vraiment, c'est magnifique, quoi.
Tu souscris, Mathieu?
Bah écoute, oui, moi je souscris totalement. Moi, c'est vrai que c'est un jeu que je referais volontiers en fait, parce que là je l'avais testé donc pour GK, je lui avais trouvé quand même des défauts sur pas mal sur le côté technique, parce que moi j'ai joué sur la version PS4 et c'est vrai qu'ils ont un petit peu de mal avec
la version PS4 est vraiment pas terrible
avec Unity, mais c'est quand même un jeu qui te hante un petit peu. Il y a plein de questions que tu te poses quand t'as fini le jeu. Il y en a certaines où enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait des réponses. Je crois que les développeurs font une espèce de session de questions-réponses cette semaine ou la semaine prochaine sur Twitter ou sur Reddit pour expliquer un petit peu. Mais c'est aussi ce truc-là qui m'intéressait dans Firewatch, c'est le côté un peu mystère total. Je savais à peu près à quoi m'attendre sur la façon dont ça se jouait, mais j'avais aucune idée de l'histoire en fait. Je connaissais juste le pitch, un mec dans un parc du Wyoming qui est là pour oublier un peu ses soucis. Et puis le reste, ça a vraiment été une grosse claque. Bah, comme vous disiez, l'écriture est vraiment excellente. C'est un des rares jeux aujourd'hui qui te prend vraiment pas pour un con et qui sait que t'es un adulte, quoi, la plupart du temps.
Ouais.
Et d'ailleurs, t'as intérêt à savoir parler anglais parce que le jeu pour l'instant est pas traduit en français. Il y a pas de sous-titres français pour l'instant. Ça va arriver, mais c'est un peu le seul truc qui pourrait bloquer si vous parlez pas du tout anglais. Il y a quand même beaucoup de blagues qui sont très comment dire, culturellement.
Il y a des jeux de mots et tout ça qui
sont. Des jeux de mots, il y a plein de trucs qui sont liés à une certaine époque aussi. Donc, faut avoir les références pour pouvoir bien apprécier, mais je trouvais ça vraiment bien construit. Un petit peu rushé sur la fin, mais pas de spoil. Voilà.
D'accord. Ouais, bah, effectivement, moi, je suis encore qu'au début, mais c'est vraiment un jeu où tu sais qu'il va tenir sur son écriture. Et parce que, enfin, sur le début, en tout cas, il y a quasiment pas de gameplay. Tu marches et puis bon, il y a deux petits trucs ici et là, mais c'est très très limité. Mais c'est un jeu qui se fait ou qui se défait sur son écriture. Et là, l'écriture est admirable, donc ça fonctionne, quoi. Ouais. C'est pas forcément un jeu pour tout le monde. Si vous aimez pas les trucs où on vous raconte une histoire et où vous rigolez de temps en temps, bon, allez peut-être pas chercher du côté de Firewatch. Mais si ce genre de choses vous intéresse, je pense que c'est un vrai succès, quoi.
Ouais, c'est une des plus belles relations que j'ai vues dans le jeu vidéo, une relation enfin épistolaire, non c'est pas épistolaire mais je sais pas comment on dit,
une relation par
Tokiwoki, mais c'est
Tokiwoker.
Ça marche extrêmement bien et du coup c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu dans le jeu vidéo depuis très longtemps, quoi.
Bon, donc on approuve Firewatch. C'est vrai que c'est le genre, en fait. C'est marrant parce que moi j'ai tendance à aimer les gros jeux, les jeux vraiment distraction AAA ou enfin, même pas forcément, j'aime plein de trucs différents, mais ça, c'est vraiment des trucs, des types.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De jeux où je me dis c'est des plaisirs particuliers. Je sais pas très bien comment décrire. C'est pas, c'est comme des films indés américains où tu dis il y a une c'est à la fois agréable à regarder. C'est pas que tu t'infliges une tristesse pour le principe. C'est quand même agréable, mais c'est en même temps c'est unique. Ça n'existe pas ailleurs parce que souvent quand on voit des trucs indés dans le cinéma dans d'autres pays, c'est effectivement souvent un petit peu la tristesse pour la tristesse. Là, c'est l'émotion plus que la tristesse et ça te fait passer quelque chose. Donc,
ouais. Bah, je pense que c'est aussi des jeux tout simplement qui collent à notre aujourd'hui à notre mode de vie, à notre génération, à nos âges. C'est des jeux auxquels déjà qui sont pas extrêmement longs. Donc, quand t'as plus beaucoup de temps de jouer, bah t'es bien content de pouvoir le faire en 4 heures et qui nous parlent en tant qu'adultes effectivement par le propos qui vont au-delà du simple boum boum pam pam. Et moi, je sais qu'aujourd'hui c'est quasiment le genre de jeu que j'aime, enfin pas que j'aime le plus, mais il y en a plein qui sortent et j'adore les faire parce que je sais que ça va pas être trop long, j'aurai le temps de les finir et souvent c'est bien écrit, c'est intéressant quoi.
Bon, donc Firewatch approuvé. Quid de Unravel, la petite sortie de Electronic Arts dans le domaine de l'indé justement. L'indé, on avait presque
l'indé marketing.
Tendance à se demander, ouais c'est ça, si c'était pas l'indé un peu forcé quoi.
C'est l'indé façon Ubisoft quoi, pareil.
Ouais c'est un peu ça, mais ce qui ne veut pas dire que c'est pas de l'indé.
Ah oui,
mais non. Mais c'est de l'indé un petit peu. Ouais alors justement, qui d'entre vous veut en parler? Moi je l'ai pas touché, je suis resté un peu loin.
Moi juste ça va être assez rapide, j'ai pas joué très longtemps hein. j'ai fait un monde et j'ai commencé le deuxième. C'est vraiment très très beau, enfin la performance technique et artistique elle est impressionnante. Le jeu est ultra mignon, on a juste envie de continuer à jouer juste pour découvrir les paysages, les petites animations du personnage qui sont adorables. Après, pour le moment, j'ai l'impression qu'on en fait assez vite le tour en termes de mécanique de jeu. Faudra voir si ça avance, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc voilà, je pense que j'ai envie de continuer, ne serait-ce que pour la performance visuelle et graphique. Voilà. Après, ce sera. Bah, en fait, tu résumes bien dans le texte. T'as marqué dans "is cute but not great" sur le conducteur. Ça va être ça, je pense. Ça va être c'est un jeu magnifique, très très beau, mais qui est pas forcément inoubliable à cause de mécaniques de jeu finalement très classique quoi.
Tu confirmes Mathieu?
Bah écoute, moi j'en suis à peu près au même point que JK là-dessus. J'ai fait le premier niveau et j'ai commencé à attaquer le deuxième hier soir. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu m'a plu. Sauf que de ce que j'ai pu en parler avec Exarf qui avait fait le jeu, le problème c'est que tu fais les deux premiers mondes et t'as vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir en termes de gameplay quoi. C'est un jeu qui a du mal à se renouveler, qui a un petit problème de rythme. Visiblement et qui est un peu tire l'arme pour pas grand chose. C'est aussi le propos un peu, on va vous mettre de la musique larmoyante et soyez triste avec nous. Mais j'avais déjà Child of Light qui m'avait vraiment laissé un peu sur le cul, mais dans le mauvais sens du terme, quand je l'avais fini, parce que tu retiens pas grand chose en fait de l'histoire. C'est un jeu très très transparent qui a pas vraiment de personnalité. Et du coup, je pense que je continuerai un petit peu comme ça, un ou deux mondes par-ci par-là quand j'aurai vraiment rien d'autre à faire. Mais ça me donne pas plus envie de voir que ça les autres mondes, si ce n'est pour la baffe graphique qui est effective et qui est vraiment là quoi. Ça c'est la plus grande réussite du jeu et je pense que s'ils arrivent à capitaliser sur cette techno pour refaire des trucs un peu plus parlants. Enfin moi j'imagine très bien par exemple un jeu comme qui a eu un succès assez relatif aussi comme Brothers, Tale of Two Sons, qui avait une mécanique du gameplay vraiment très intéressante. Si tu me fais un jeu avec le moteur de Unravel, déjà ça sera un peu plus intéressant quoi.
C'est vrai que c'est encore un jeu dont on a pas mal parlé finalement, Brothers, quand il est sorti dans le milieu des amateurs de jeux vidéo hein. C'est pas forcément le truc qui va faire les ventes d'Assassin's Creed justement, mais c'est encore un jeu qui est dans cette, je sais pas bien comment les classer quoi. C'est un peu, c'est de l'indé finalement, parce que c'est pas des grosses équipes, mais c'est de l'indé qui ne se fourvoie pas dans le dans le rétro gaming, dans le chiptunes, pour le chiptunes, encore que toutes ces méthodes sont utilisées souvent aussi parce que c'est des équipes encore plus petites qui développent ces jeux-là et forcément on n'a pas les moyens de faire des graphismes 3D qui coûtent excessivement cher ou de faire des enregistrements symphoniques.
Ouais, non ? Ça dépend parce que t'as des jeux indés, tu vois le pixel art par exemple, c'est quelque chose qui peut coûter beaucoup plus cher que de la 3D quand tu le fais bien en fait, parce que c'est très laborieux, c'est très très long, et puis ça peut être aussi tout simplement une question de choix esthétique et de maîtrise.
Bien sûr.
T'as des gens qui sont très très doués pour le pixel art et qui sont vraiment nuls en 3D, donc autant qu'ils fassent des jeux dans la discipline qu'ils maîtrisent le mieux, tu vois. Moi, je les catégorise pas par rapport forcément au rendu et je pense pas à toi non plus, mais c'est vrai que on a toujours tendance à dire ça va être plus simple si on fait des trucs en 2D et pixel art, alors que la belle 2D, ça peut prendre deux fois plus de temps que de la 3D correcte, voire jolie même.
Ah d'accord, bah écoute, moi j'aurais pensé que... Remarque, c'est vrai qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui de développement 3D, de middleware comme on les appelait à l'époque, que finalement, c'est pas que t'as besoin de redévelopper ton moteur de zéro à chaque fois. Mais ouais, donc il y a cette catégorie presque intermédiaire en fait de jeux indé comme Brothers, comme Gone Home, comme Firewatch... qui sont des jeux indés qui sont pas forcément uniquement basés sur le gameplay, pas uniquement. Et puis les gros développeurs qui viennent s'essayer à l'indé, ce qui est une très bonne chose, hein, moi je suis pas du tout en train de critiquer, avec des trucs comme Child of Light chez Ubi ou Unravel chez EA, c'est pas qu'ils tapent à côté, mais c'est que on a l'impression que c'est un petit peu, je sais pas comment catégoriser ça, mais c'est un petit peu Coca qui essaye de te faire de la bière artisanale, quoi. Tu dis bon, il y a quand même un truc qui est pas 100% authentique, on arrive peut-être à 80% de l'authenticité, mais pas à 100% du truc, quoi.
Mais Ubisoft avait réussi avec Grom, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Et puis il y avait
Soldat inconnu
ouais. Exactement, qui était
qui fonctionnait bien. Non, c'est des petites équipes. Hein. Enfin, quand tu vois même l'équipe des Rayman à l'origine, c'était pas des grosses équipes. Même sur Rayman Origins, je crois que quand ils ont commencé le projet, ils étaient une dizaine de personnes. Après, ça a grossi pour des besoins de prod, mais
ouais, je pense que c'est surtout une question d'état d'esprit et de d'équipe et de façon de développer qui fait que t'as un esprit indé ou pas. Mais même effectivement, si t'appartiens à Ubisoft, si les gars ils sont 10 dans leur coin et qui développent pendant un an leur jeu sans rendre compte à personne, là on peut parler un peu d'esprit vaguement indé, quoi, c'est sûr.
Ouais, mais c'est ça dont je pense que c'est pas vraiment vraiment possible. Enfin, ils peuvent essayer, et même à l'origine, il va y avoir une intention vraiment une intention honnête, sincère plutôt, de se dire on va laisser une équipe tranquille et ils vont faire leur truc. Mais je crois que c'est vraiment difficile dans une société qui a la taille d'une de ces grosses multinationales de rester de bout en bout du développement aussi indépendant et aussi complètement sans influence qu'on va l'être forcément dans une petite équipe de 10 personnes qui va développer ça dans 5 pays du monde dans leur chambre et en communiquant par Skype. Donc
faut voir, parce que je prends l'exemple encore de Gros Home, c'était un jeu développé par Réflexion en Angleterre. À mon avis, les mecs ils ont bossé sur un proto, ils ont montré ça vaguement à quelqu'un, c'est remonté et Ubisoft leur a dit allez-y, enfin en gros du moment que ça plombe pas le budget d'un autre jeu ou le temps d'un autre jeu, allez-y quoi. Enfin, j'imagine que ça s'est passé comme ça, mais après Grob, c'est assez particulier, parce qu'autant Soldat Inconnu, il y avait quand même même Child of Light, il y avait quand même pas une démarche commerciale derrière, mais Grob, c'est vraiment un ovni, quoi. Chez Ubisoft, c'est vraiment le jeu qui sort de nulle part. qui ressemble à rien. J'adore le jeu, hein, mais c'est vraiment très particulier.
C'est vrai,
quoi.
Qu'il ressemble à aucun autre jeu.
Complètement, ouais.
Ouais, bon, donc la leçon, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire de catégorisation a priori, on ne peut pas faire de généralisation, et en fait, chaque jeu est différent, et c'est pas parce qu'il sort de chez tel ou tel éditeur que ça veut dire quelque chose sur le jeu, quoi, a priori. Bon, bah merci de m'avoir remis en place comme il faut. et maintenant, on va passer à d'autres petites news sur des vrais jeux de Barbu et de Ryu Barbu, à savoir Street Fighter V, qui sort dans quelques heures maintenant. Alors, il est déjà disponible pour beaucoup d'entre vous si vous avez voulu aller l'acheter dans votre boutique préférée. Il est sorti, en fait, il est disponible depuis la fin de la semaine dernière. Moi, je l'ai acheté sur le PSN, donc je vais devoir attendre, comme tout le monde, gentiment, que ça se débloque, voilà. Mais au moins, il sera sur mon disque dur, et j'aurai pas besoin de remettre le disque à chaque fois, c'est pour ça que je l'ai acheté là-bas. Mais on a quelques news en plus, donc quand vous écouterez cette émission, a priori, si vous attendez quelques heures après la sortie, bah il sera déjà disponible. Il y a quelques infos sur les disponibilités des autres éléments du jeu. Normalement, il y a une énorme partie du jeu, enfin une énorme partie, plusieurs modes qui ne seront disponibles qu'en mars, donc dans un mois de ça, le mode histoire, le mode spectateur, il y aura la boutique aussi qui ne sera disponible qu'en mars, et le premier personnage sera déjà disponible en mars, c'est Alex, le personnage de Street Fighter 3. Et puis il y aura un personnage supplémentaire par mois jusqu'en septembre. Il y aura uniquement le mois de juin où la mise à jour sera le mode solo, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le Cinematic Story Experience, qui sera un vrai mode solo avec des cinématiques que moi j'ai trouvé assez moches d'ailleurs.
Elles sont immondes.
Ouais, t'es d'accord, hein.
Ah c'est... non, mais c'est je sais pas combien de temps, parce que l'illustrateur en fait Bengus, il me semble.
Ouais.
Et pourtant fait des trucs assez sympa d'habitude, et là je pense que ils ont dû lui filer une deadline de bon, t'as 3 jours pour faire les illustrations, débrouille-toi, et puis
peut-être que c'est ce qu'il fallait pour le trailer, et puis qu'il aura plus de temps pour faire la suite, mais moi j'ai pas trouvé ça.
Bah, là en fait de ce que j'ai compris, en plus le cinematic story, donc là ils vont vraiment faire des cutscenes avec le moteur du jeu et tout pour raconter un peu l'histoire qu'ils voulaient mettre derrière, mais c'est assez étonnant pour un jeu qui a été annoncé de longue date et qui arrive un petit peu de manière, on a l'impression qu'il a été rushé en fait sur pas mal d'aspects.
Bah moi ce que je me dis, c'est que j'espère qu'ils se seront concentrés sur le gameplay encore une fois, et pour avoir une expérience de jeu fluide. Même si j'ai l'impression que les combats, ça prend quand même encore un petit peu de temps pour passer d'un combat à l'autre en mode en ligne, ce qui est le plus important finalement dans les jeux de combat.
Ouais.
Comme sur Street Fighter 4, c'est un petit peu bon. Alors je joue et puis attention, un nouveau combattant. Ok, alors vas-y. Maintenant écran de sélection.
Okay, attends 20 secondes.
Voilà, c'est ça. Attends 20 secondes. Maintenant écran de chargement. Sélectionne ton stage. Ok, d'accord. Maintenant écran de chargement. Vous connectez. Ok, super. Mais bon, ça marchait correctement sur Street Fighter 4, et puis là c'est Street Fighter 5, donc forcément on va y jouer. Enfin moi en tout cas.
Pareil.
Pareil. T'es un amateur, Mathieu ?
Bah je suis pas. Je joue de temps en temps au jeu de baston, mais moi j'ai déjà eu l'occasion d'y jouer à la rédac. On a reçu une version review sur laquelle on a déjà pas mal dosé. Je trouve ça intéressant. Il y a vraiment plein de mécaniques qui sont bien pensé et qui devrait prendre auprès de la communauté de joueurs vraiment hardcore pour les tournois et les trucs comme ça. Mais c'est un jeu très particulier. J'ai un peu de mal à voir exactement ce que veut faire Capcom avec. Mais en tout cas, je sais qu'ils vont le pousser.
De quelle manière ? Qu'est-ce que tu veux dire, ce que veut faire Capcom avec ?
Bah, en fait, c'est un jeu qui est clairement taillé pour tout ce qui est compétition e-sport, l'Evo, les choses comme ça. D'ailleurs, il sera à l'Evo.
Ouais, et pas le 4, prochain. Ils ont viré le 4, c'est uniquement le 5 qui sera là, donc
pousser le 5. Mais c'est aussi c'est un jeu qui est un petit peu vraiment en kit, qui est dans la lignée. On va dire que si on devait le comparer à un autre jeu, ce sera un petit peu Killer Instinct en fait. Sur le côté, tu sens qu'ils veulent faire un jeu saisonnier, qu'aura vraiment des nouvelles saisons régulièrement, avec des nouveaux persos, des ajustements, du contenu supplémentaire. Mais bon, ça fait un petit moment que la mode est à des jeux que tu peux pas tester en fait en à la sortie parce qu'il y a pas assez de contenu. Nintendo l'a fait par exemple avec Splatoon, tu vois, ils étaient à fond là-dessus sur le fait que sur la longueur on va balancer plein de contenu et dans un an vous aurez vraiment le jeu complet. Bah là c'est un peu la
même. Ce qui a bien marché d'ailleurs pour Splatoon.
Ça a très bien marché pour Splatoon. Et je pense que le fait qu'ils soient sortis nulle part et que ce soit une licence totalement nouvelle a pas mal joué pour son camp. Pour Street Fighter, je pense que ça va être plus compliqué parce que il y a vraiment une grosse fanbase de Street Fighter qui déjà arrive pas à se mettre d'accord sur est-ce que c'est Street Fighter 3-3, est-ce que c'est Street Fighter 4, est-ce que c'est 2X. Il y a plein de d'écoles différentes et là ça en rajoute une de plus avec en plus des systèmes de jeu qui sont à la fois pour les débutants, parce qu'il y a des trucs qui ont été vachement simplifiés, et des choses qui sont ultra complexes à appréhender. Faut vraiment que t'aies quelqu'un qui t'explique à côté, parce que sinon tu comprends rien du tout. C'est pas le mode training qui va t'aider à capter ce qui va se passer.
J'espère qu'ils réussiront à nous faire un truc. C'est vrai que Street Fighter 4 était très bien, mais c'était un petit peu raide quand même si tu débutais. Street Fighter 5 avec les V-Skills, les V-Triggers, tout ça, tu peux quand même faire des trucs. Donc j'espère qu'ils réussiront à faire une version qui est accessible pour les débutants, mais quand même suffisamment complexe pour les experts. Mais là, c'est comme, effectivement, surtout pour les e-sports, c'est jamais gagné, quoi. Tu sais jamais si tu vas réussir si tu vas réussir ton pari comme ça. Bon, on aura la réponse dans quelques semaines, quelques mois.
Yes.
Un qui a réussi son pari, en tout cas, c'est Rocket League. Et Rocket League, si vous êtes sur Xbox, justement, eh bien, vous pourrez y goûter dès le 17, donc dans 2 jours au moment de l'enregistrement. Vous pourrez y goûter, bah ça y est, parce qu'il arrive sur Xbox. Donc voilà, je voulais juste le mentionner parce que Rocket League, c'était la grosse surprise, les gros barres de rire de cet été. The Division aura une nouvelle bêta ouverte pour le coup qui arrive le 18 février sur Xbox. Elle est un petit peu plus tôt donc sur Xbox, elle sera le 19 sur PC et PS4. Et là donc elle est ouverte. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de jouer à la bêta fermée, vous pourrez y jouer le week-end. C'est jusqu'au 21 en fait. Donc ouais. Moi je vais jouer un petit peu parce que j'ai pas pu jouer à la bêta fermée. Vous m'interrompez hein, quand vous avez des choses à dire sur ces petites news sur lesquelles je vais passer plus rapidement. Overwatch est revenu et à tous ceux qui se demandaient si j'allais parler d'Overwatch dans cet épisode, bah forcément, la bêta est revenue. Moi, je suis le plus grand fan de la Terre d'Overwatch, donc forcément, je vais en parler. Juste pour dire que je suis complètement revenu à fond dans Overwatch. J'y joue tout le temps et je suis complètement fan. Donc, je vais pas dire beaucoup plus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Je me demande si je vais pas faire un épisode spécial Overwatch à un moment. Je me dis, il y a 2 trucs sur lesquels j'aimerais faire des épisodes spéciaux, c'est Street Fighter V et Overwatch. Peut-être que je ferai ça, je sais pas. On verra. Mais
juste au niveau du contenu par rapport à la bêta précédente, c'est une nouvelle carte, c'est un nouveau mode de jeu.
Alors il y a un nouveau mode de jeu avec 2 nouvelles cartes. Mm-hmm. Il y a le système de progression, donc tu gagnes des niveaux quand tu joues. Les niveaux ne servent à rien, c'est juste cosmétique et ça te donne des coffres que tu peux ouvrir qui vont te donner des petits bonus qui eux non plus ne servent à rien et ils sont uniquement cosmétiques mais ils sont assez sympas. Il y a genre des icônes pour les joueurs, des poses pour les personnages et des skins, des trucs comme ça. Et il y a un truc qui est magnifique, c'est à la fin d'une partie en fait d'Overwatch, tu as à la fois pour l'effet waouh et pour encourager les gens à apprécier le travail de leurs coéquipiers et pour pas créer une ambiance toxique, il y a ce qui s'appelle le play of the game, la séquence de la partie où ils vont te remontrer une petite partie du jeu où il s'est passé quelque chose de particulièrement impressionnant. Quelqu'un qui a fait plusieurs kills à la fois, bon, généralement, c'est ça. Et pour présenter cette petite séquence, il y a une introduction de 3 secondes où ton personnage fait un petit truc. Et tu peux aussi gagner dans les boîtes, les coffres, des séquences spéciales. de présentation. Et il y en a qui sont magnifiques, il y a un dynamisme dans la manière dont c'est filmé qui est vraiment impressionnant. Donc si t'aimes bien le jeu, ils ont réussi en fait à te trouver des trucs qui sont assez motivants. Quand tu ouvres ton petit coffre, t'espères, en plus il y a les trucs genre à la Hearthstone, t'as une petite lumière qui brille en fonction de la rareté de l'objet, enfin des objets que tu vas avoir dedans. Donc si tu vois un petit truc violet, tu dis oh mon dieu, ça va être un truc épique, ça va être trop fort, etc. Et évidemment, ils ont prévu de vendre de ces trucs là pour en microtransactions. Donc ils vont monétiser comme ça en plus du prix du jeu. On reprécise que c'est uniquement cosmétique, donc ça n'a pas d'influence sur le gameplay. Donc au final, moi je trouve que l'équilibre est très bon quoi. Mais voilà, à chacun de se faire.
Moi, je suis vraiment, j'ai hâte de voir le succès du jeu. Enfin, c'est marrant parce que, enfin, là, ils se lancent quand même dans une nouvelle licence, un nouveau genre de jeu. A priori, ils le font bien. Mais est-ce que, enfin, voilà, qu'est-ce qui va ressortir derrière en termes de succès? Je m'inquiète pas trop, mais, enfin, moi, pour moi, c'est leur projet le plus risqué depuis hyper longtemps, quoi.
Ouais, moi je dirais que Hearthstone, enfin oui, en même temps, Hearthstone c'était un plus petit,
ouais, mais c'était l'univers de Warcraft, tu vois, et puis c'est un plus petit projet, tu vois.
Ouais. Au début ils étaient 10-15, donc c'est vrai qu'ils risquaient pas grand chose, mais
c'est sûr.
Ouais, bah écoute, ça c'est une très bonne question, hein. C'est la question à, j'allais dire à 1000 francs, mais c'est la question à 1000 millions de dollars. Et moi évidemment, je pense que le jeu est excellent, mais ensuite est-ce qu'il va avoir un succès au-delà des quelques dizaines de milliers de personnes qui sont dans la bêta. Pour le moment, les gens ont l'air d'apprécier, mais on sait jamais quoi. Hearthstone, il va y avoir un nouveau mode de jeu. En fait, il divise entre le mode standard où ils vont limiter le nombre de cartes aux extensions et aux aventures des deux dernières années, et le mode wild, le mode je sais pas comment ça peut se traduire en français correctement, parce que sauvage. C'est pas le mode sauvage. Ouais, mais sauvage, c'est je sais pas si ça correspond exactement. Où il va y avoir toutes les cartes disponibles, mais là ça leur permet d'équilibrer un petit peu plus facilement pour les nouvelles extensions et d'avoir un mode qui sera moins intimidant pour les nouveaux joueurs. Donc la manière dont ça va se passer, c'est que quand il y a chaque année une nouvelle extension ou une nouvelle aventure qui est disponible, à partir de ce moment, les seules cartes qui sont disponibles dans le mode standard, c'est les cartes de l'année en cours et de l'année précédente, plus toutes les cartes basiques, bien sûr, qui sont disponibles dès la sortie du jeu. Donc, c'est un truc assez classique dans les jeux de cartes à jouer, de cartes à collectionner, type Magic, etc. Il y a toujours un mode standard, et c'est normal, ça leur permet de contrôler la manière dont l'équilibrage du jeu se fait pour les compétitions, tout ça. Ensuite, vous pouvez toujours aller jouer dans le mode sauvage, mais il y a un mode standard qui est un petit peu plus équilibré, quoi. Et moins intimidant, surtout pour les nouveaux joueurs.
J'ai toujours pas plongé, alors que j'adore les jeux de cartes.
C'est vrai? T'es un joueur de Magic ou?
Ah, j'adorais Magic. J'ai beaucoup, beaucoup joué quand j'étais au lycée, début de la fac. Et puis j'ai un peu lâché entre temps. J'ai fait d'autres jeux de cartes à collectionner plus en ligne, on va dire. Mais c'est vrai que ça m'intrigue et en même temps j'ai pas envie de tomber dedans, donc pour l'instant j'y joue sur l'iPad de pote ou sur d'autres comptes. En plus j'ai pas de compte Battle.net, donc pour l'instant
t'as pas de compte Battle.net.
Je suis comme je disais à Noon la dernière fois à GK, moi depuis Lost Viking j'ai à peu près lâché Blizzard. Donc j'ai joué un peu à Diablo sur PS1, voilà. Vous pouvez me lancer des cailloux.
Ouais, non, mais je pense que là, les gens sont en train de ramasser leurs cailloux et s'apprêter à te les lancer sur Twitter.
Mais en fait, je regarde pas mal. J'avais essayé StarCraft 2 à cause de pendant une soirée GK, mais j'y ai joué 5 minutes. Je suis nul en RTS, donc.
D'accord.
Il y a pas trop de jeux jusqu'à Hearthstone qui me donnait vraiment envie de passer d'aller jusqu'à me faire un compte et d'acheter le jeu.
Bah écoute, oui, sur Hearthstone, c'est un bon jeu pour essayer. Attends peut-être l'arrivée du mode standard. Ça devrait pas trop tarder, la prochaine extension, a priori, allez, mars ou avril. Et puis là, ça calmera un petit peu le jeu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu le bordel. Il y a tellement de cartes, c'est un petit peu le foutoir. Donc à ce moment-là. Mais en même temps, tu peux tout à fait jouer. Tu peux tout à fait jouer en débutant. C'est possible. C'est un jeu qui est relativement facile à appréhender.
Oui, je me fais pas trop de soucis.
Oui, si tu as joué à Magic en plus, ça va. Tu vas pas être.
Ça devrait aller.
Titanfall 2. Bon, on a eu une confirmation du mode solo, qui est pas une grande surprise. On l'attendait depuis un moment. Et il y a aussi des jouets Titanfall 2 qui seront disponibles cette année. Donc voilà, si vous rêviez d'avoir des jouets Titanfall, bah vous pourrez.
Non, les jouets, ouais, les jouets, je m'en fous un peu. Mais par contre, la campagne solo, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ah bah, carrément.
Parce que Titanfall, il a pas eu le succès forcément. Enfin, apparemment, il a bien marché, mais on l'a un peu vite oublié. Et il y a quand même un potentiel incroyable en termes de gameplay et même en termes d'univers. Je pense que ça peut être assez sympa. Faut voir si c'est juste une campagne solo prétexte comme par exemple les Battlefield, ou si c'est un truc un peu plus costaud comme les Call of Duty, choses comme ça, quoi.
Bah, il y a peut-être, pour construire l'univers, ils sont en train de réfléchir aussi à une série télé carrément. Donc,
ah oui, d'accord.
Ouais, bon. C'est du sérieux là, Titanfall.
Mais il faudrait juste appeler Michael Bay et puis c'est bon, il nous fait un film.
Voilà, exactement, des mecs géants qui explosent, c'est parfait pour Michael.
Ouais.
Ouais, ils vont faire un truc à la Avatar, tu sais. Là, ils avaient l'air de dire que le deuxième sera un peu plus fantastique, relation avec la nature, tout ça.
Ah, ah
ça sent fort Avatar.
Je sais pas si c'est une bonne chose.
On verra bien.
Doom arrive le 13 mai avec une édition collector avec une statue de démon géant. Les Américains aiment beaucoup ces trucs-là. En France, un petit peu moins, mais bon.
Y a, de quoi, si les collectors, tu veux dire?
Non, bah, les statues géantes.
Ah oui,
machin.
Oui. Oh, oui, ça.
Enfin, si, il y a des gens qui aiment bien, mais oui. Bon, si vous voulez une statue de démon géant de Doom, bah voilà, vous savez où aller. Mirror's Edge Catalyst a présenté un nouveau trailer qui présente l'histoire de Mirror's Edge, qui, moi, m'a beaucoup plu. En fait, il y a un mode histoire qui a l'air... Enfin, un mode histoire, c'est le mode de Mirror's Edge, mais je veux dire, l'histoire a l'air assez travaillée. Il y a dans ce trailer un jeu d'acteur qui est bon, une écriture qui a l'air bonne, le motion capture a l'air bon aussi. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui me semble important pour ce jeu-là. Et qui, enfin, c'est toujours un truc qui me plaît dans les jeux, quand l'histoire, alors c'est pas, on sait, c'est de l'histoire de jeux vidéo, c'est pas forcément la meilleure écriture de la terre, mais surtout dans les jeux comme ça, ça reste oh, regardez, il y a un méchant, il faut surtout pas qu'il réussisse à contrôler toutes les données du monde, sinon il va être vraiment méchant. Ok, super. Mais il n'empêche, quand c'est bien joué et bien motion capturisé et pas trop mal écrit, moi j'apprécie beaucoup plus un jeu, le mode solo du jeu. Et là, ça a l'air d'être le cas. Donc moi, je trouve que ça m'a enthousiasmé pour ce jeu, quoi. Alors que j'étais déjà assez enthousiasmé.
Ouais, enfin, je crois qu'on en a déjà parlé il y a deux numéros où moi je trouvais que la hype était un petit peu retombée après avec ce trailer qui présente un peu le mode histoire. Ça peut peut-être faire remonter un peu l'intérêt que j'ai pour le jeu.
Moi, après, ça fait un peu ça en fait.
Après, je suis extrêmement curieux d'y jouer, mais je l'attends pas comme un dingue, quoi.
Non, bien sûr. Un autre jeu a été annoncé, c'est Dead by Daylight, que j'ai découvert sur Gamekult justement, que je voulais évoquer parce que ça serait peut-être le Evolve réussi. En fait, réussi. On n'en sait rien. On n'a même pas vu d'image du jeu, mais ils expliquent ce qu'ils essayent de faire. En fait, c'est un jeu où on a un serial killer, type tous les slasher movies, Jason, etc., etc.
Scream, Mike Myers,
voilà, Mike Myers, Scream, etc. Merde, les Vendredi 13. Oui, voilà, bref.
C'est ça, Halloween, tout ça.
Halloween, voilà. Non, mais Nightmare on Elm Street. Oh.
Ah, Freddy.
Freddy Krueger. Ah, Freddy, voilà, ouais. Merci. donc, un serial killer, un psycho killer plutôt, et quatre survivants qui essayent de s'échapper, et le psycho killer qui essaye de les tuer. Et vous avez donc ce gameplay multijoueur asymétrique 1 contre 4, avec des dynamiques intéressantes qu'ils ont l'air de développer. qui comment dire, où on n'est jamais sûr de à qui on peut se fier, parce que est-ce que nos amis vont nous abandonner pour essayer de gagner plus de temps, est-ce qu'ils vont nous aider pour rester ensemble enfin à réussir à gagner la partie ensemble, etc., etc. Je sais pas, ce jeu m'a intrigué, quoi. J'espère, parce que j'aimerais que le jeu réussisse le pari raté de Evolve. Mmh. Et l'idée d'un gameplay multijoueur asymétrique est très séduisante, et j'étais déçu qu'Evolve ne fonctionne pas, donc voilà, ouais. Dead by Daylight peut-être à suivre.
Moi je trouve l'idée vraiment géniale, en plus enfin en tant qu'amateur de ce genre de petits films, c'est vraiment, je trouve ça super cool. Après effectivement ça va être compliqué, il va falloir trouver un bon équilibrage. Parce que le problème d'Evolve notamment, c'était que c'est que tu passais 20 minutes à t'ennuyer au début avant qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir rythmer un peu mieux les parties que ce que Evolve fait. Après, ça va peut-être être très différent en termes de gameplay, on sait pas, hein. Pour le moment c'est pas grand chose, mais c'est vrai que ça rappelle forcément Evolve, quoi.
Ouais, exactement, mais bon. Encore une fois, on n'a rien vu, hein. Ouais, il y a même pas d'image de gameplay, donc
les concepts étaient
des concepts. Oui, oui. Mmh. Petite news diverse. L'E3 verra le retour de l'incroyable PC Gaming Show qui nous avait tous captivés pendant 3 heures. Ouais, c'est un petit peu la réaction qu'on avait eue. En fait, c'était la réaction de désespoir après ce PC Gaming Show en 2015. Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était 3 heures absolument interminables où se suivaient les présentations vide et creuse, sans aucune annonce et ni aucune information. Il y avait les deux trucs qu'on avait entendus, c'était No Man's Sky sera disponible sur PC et Blizzard qui avait annoncé un truc pour Heroes of the Storm, un event Diablo pour Heroes of the Storm. Voilà, et ça avait pris 3 heures.
Et puis c'était en pleine nuit en plus pour la France. Nous, je sais que c'était aux alentours de 18-19 heures aux US. Quand on était à l'E3, et du coup, pour la France, ça faisait, je sais plus, 5h du matin, 4h du matin.
Et moi, j'étais resté réveillé pour le regarder, et c'était la déception totale. Oui. En même temps, moi, je pense que c'était la première fois qu'ils avaient fait ça, c'était PC Gamer et c'était Nvidia, c'est ça ? Non, AMD. AMD. Ouais, pourtant, ils avaient leur nom partout, et j'ai quand même oublié, qui avaient organisé ça. Je pense que il y a le potentiel pour avoir un truc bien, et que ils ont très clairement entendu les raisons pour lesquelles celui-là n'avait pas été bien. J'espère qu'ils sauront corriger le tir. Et c'est bien qu'on ait un show dédié au PC, mais bon, faites ça en une heure, mettez-nous au moins 3 ou 4 annonces, et ça sera beaucoup mieux. Là, c'était clairement un petit peu trop, quoi.
Ouais, espérons.
Et entre parenthèses, EA ne sera pas non plus officiellement à l'E3. Ils vont eux aussi avoir une présentation annexe à côté de l'E3. C'est vraiment intéressant de voir à quel point aujourd'hui les salons, on peut organiser des trucs autour, mais on n'a pas forcément besoin d'y être sur le stand. On peut complètement s'en passer et diffuser nos informations par Internet. Donc voilà, c'est juste à mentionner comme ça. Paris Games Week aura lieu du 27 au 31 octobre et la surface augmente encore. Si vous voulez commencer à réserver vos places à l'hôtel pour venir à Paris pour la Paris Games Week et vous faire piétiner par des ordres de furieux qui veulent se précipiter sur le stand Call of Duty, vous pouvez faire ça. Je suis méchant, c'était sympa la Paris Game Week cette année.
Ouais, cette année j'ai trouvé ça.
C'était mieux.
Après, moi j'y étais pour la journée presse. Pareil. Forcément, j'ai pas eu la cohue, mais ouais, je trouvais ça plutôt pas mal. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Pareil, c'était franchement. Là, je suis mauvaise langue, c'est juste pour la blague. Déception pour les fans de Fire Emblem. Visiblement, Fire Emblem Fates n'aura pas l'option pour les voix japonaises. Donc voilà, moi j'étais dévasté. Bon, je joue pas à Fire Emblem, donc là c'est clair que j'y jouerai pas. Les voix anglaises, non merci. Et enfin, dans la rubrique pourquoi, c'est la rubrique que j'ai nouvellement inaugurée pour cet épisode. Dans la rubrique pourquoi, on a l'arrivée en 2018 d'un film Sonic le hérisson, Sonic the Hedgehog, qui sera un mélange entre film live action et film éléments en images de synthèse. Donc vraiment, alors là, je me dis, mais en avait-on besoin ?
Je crois que c'est la pire idée du monde. Enfin, faire un film Sonic, bon, déjà, c'est pas terrible. Et puis, en plus, mélanger CGI et film réel, enfin, live action, comme tu dis, avec des acteurs réels. Pff, je comprends pas. Ça va être quoi? Ça va être les Schtroumpfs version Sonic, un truc comme ça, je sais pas.
Ah, bah, ça va être clairement un truc dans ce style-là.
Ouais, à mon avis, ouais.
Il y aura peut-être Neil Patrick, comment il s'appelle,
Harris.
Patrick Harris.
Harris, pardon.
Mais
le
non,
mélange avec Harrison Ford.
Ah ouais, ouais, ouais. Mais non, mais ouais, enfin, Sonic, c'est tellement triste, quoi. Enfin, qu'on laisse Sonic tranquille, quoi. Ou au moins qu'on se contente de faire des jeux à peu près corrects, ce qui est pas le cas aujourd'hui, donc, voilà, quoi.
Ouais, ouais. On sait pas pourquoi, voilà. Je pense que la rubrique est bien intitulée.
Et qui, on sait qui produit ça, c'est pas Sega qui produit ça, quand même, si?
Sega et Sony.
Ouais.
Oula, d'accord, ok.
Voilà. Bon. Donc, mais surtout, ça arrive pas avant 2018, je crois, un truc
ouais,
comme ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
Parce que la collaboration, en tout cas le projet de film Sonic avait été annoncé il y a presque 2 ans, et sauf qu'ils avaient rien dit de plus, ils avaient dit il y aura un film Sonic, et là ils ont filé quelques détails en plus, mais c'est pas encourageant.
Ouais, on est d'accord.
Et imaginez le jeu tiré de ce film, quoi.
Bien sûr.
Ça serait une catastrophe, là. Déjà que les jeux Sonic sont pas bons, alors là.
Tu viens de me faire un retour vers le futur du jeu Street Fighter, le jeu du film.
Fighter the Movie.
Ouais. Dans lequel, auquel je jouais, dont je riais quand je travaillais encore chez Score Games à l'époque pour payer mes études. Oh là là. Que de souvenirs. Vous avez joué à ce Street Fighter,
le jeu
du film?
Un tout petit peu, ouais. Ouais. Mais voilà.
Vous n'avez rien raté, ouais.
Je préférais le film. C'est un bon nanar. Franchement, c'était un bon nanar.
C'est vrai. Mais voilà, peut-être que le film Sonic, dans quelques années. Mais en même temps, le film Street Fighter, c'était un nanar instantané.
Et puis, souvenez-vous du film Mario, quand même.
Non, je préfère celui-là vraiment, je préfère l'oublier.
Je pense qu'il est imbattable. Hein, mais, ouais.
Je connais des défenseurs du film Mario.
Ah.
Mais comment peut-on?
Bah, visiblement, on peut. Il y a des gens qui arrivent à lui trouver des qualités.
C'est des gens chez Gamekult ou est-ce que tu peux balancer?
Alors, qui est-ce qui m'avait parlé de ça? Je crois que c'est William Oduro qui est chez Le Monde maintenant.
Ouais, qui
lui trouvait quand même, qu'ils avaient bien adapté l'univers de Mario dans le sens où il reprenait tout, tu vois, et il le transformait.
D'accord.
Alors après c'était compliqué à mettre en place. Moi je me suis parmi des champignons partout et des bottes, des super bottes qui font sauter.
On parle bien de William Monduro qui a écrit un livre sur Mario.
Oui, bien sûr, oui.
D'accord. Non,
mais c'est un homme surprenant.
Ouais.
Je dirais pas que c'est son film de chevet, hein. Mais il lui trouvait des petits arguments.
D'accord.
D'accord.
Bon, eh ben, écoute, espérons que les fans de Sega de l'époque réussiront à se rallier derrière le film Sonic de Hedgehog. En même temps, on est encore mauvaise langue, hein. Ça se trouve, il sera très bien, on sait pas.
Oui, attendons, voilà, ça se trouve, ça va être Pixar qui va réaliser le truc, ça va être génial.
Ouais. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour des news de ces derniers temps. Vous avez des trucs dont vous voulez que vous voulez évoquer en plus, ou est-ce qu'on peut conclure l'émission?
Écoute, là comme ça,
on n'a rien oublié.
À chaud plutôt, non, pas vraiment.
D'accord, très bien.
On a fait le tour.
Et bah, pareil, écoutez, je pense pas. J'ai pas de film à promouvoir ou quoi que ce soit.
Bon bah écoute, promeut plutôt ton activité sur internet si les gens veulent te retrouver quelque part, Mathieu.
Ben écoutez, c'est facile, vous tapez GAMEKULT dans votre barre de recherche et vous tomberez sur un site où il y a des bonnes news en général, puisque on en écrit un peu tous. Si vous voulez vraiment nous soutenir, ben il y a l'option premium sur Gamekult où on s'échine un petit peu pour faire des articles un peu plus fouillés, aussi bien au sein de la rédaction qu'avec pas mal de pigistes qui bossent avec nous. Et bah du coup, moi vous pouvez me retrouver notamment dans une émission qui s'appelle In Dev With, si vous aimez bien le monde du développement de jeux vidéo. On invite chaque mois quelqu'un qui travaille, que ce soit graphiste, sound designer, scénariste, producteur, plein de postes différents qu'on essaie de faire découvrir à travers le parcours d'une personne. Donc c'est le premier mercredi de chaque mois normalement.
Et
jusqu'ici, on a tenu le rythme.
J'avais particulièrement apprécié l'émission avec notre amie Abigail, que vous connaissez sous le nom de Diraen, si
oui,
vous
tout
écoutez
Diraen
jeu ou même
faisait de la localisation.
Exactement, ouais. C'était hyper intéressant de découvrir le, parce que c'est des métiers qu'on ne, auxquels on pense pas forcément quand on pense aux jeux vidéo, et c'est des trucs assez intéressants aussi, voir comment ça se passe les relations avec les développeurs quand les développeurs sont pas en Europe, comment on gère tout ça, et c'est un truc que j'ai connu moi un petit peu chez Blizzard aussi, donc ça m'avait vraiment intéressé celui-là en particulier, mais c'est vrai qu'ils sont tous bons. InDevWith.
Oui, c'est compliqué à prononcer, mais c'est facile à retenir en général.
Merci beaucoup. Et bien sûr, Flamèche sur Twitter.
Tout
vous
à fait.
Pour arrêter pris ou qu'est-ce qui c'est
Non, c'est, j'essaye d'avoir un pseudo différent par réseau social.
D'accord, mais c'est pratique.
Juste pour le plaisir.
Pour brouiller les gens.
J'ai rajouté Boule à Poire un peu plus tard à la demande parce que personne n'arrivait à me retrouver justement.
Oui, forcément. Ah, tu es aussi sous Boule à Poire sur Twitter.
Bah en fait, il y a Boule à Poire, tu peux avoir deux noms sur Twitter. Et normalement, si tu tapes Boule à Poire, je fais le test à l'instant, tu dois tomber sur Flamèche en fait.
Ah, mais
c'est mon nom, c'est mon véritable nom, c'est censé être mon véritable nom.
Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Là, oui, ton, le nom de. D'accord, ok, effectivement.
Voilà.
Très bien, très bien. Ok, et bah, JK, quid de toi?
Ouais, bah moi JK toujours donc sur ZQSD, le podcast jeux vidéo PC. Le prochain numéro va sortir bientôt, on l'a enregistré la semaine dernière, donc c'est le numéro 36. C'était cool parce qu'on avait reçu, on a reçu deux invités, Brice Roy et Xavier Thierry, qui ont travaillé sur le jeu Californium, qui est un jeu, une sorte de jeu d'aventure qui s'inspire de l'univers de Philippe K. Dick. Et voilà, donc le jeu est assez intéressant, les invités étaient très intéressants, donc voilà, un numéro assez costaud où on parle aussi de Firewatch avec un peu de spoiler, je vous préviens tout de suite, mais on est resté soft quand même. On parle d'Oxenfree, on parle aussi de The Witness, donc des grosses critiques bien qui donnent bien mal au crâne.
Oxenfree, c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup.
C'est génial, Oxenfree. Bah franchement, si tu aimes Firewatch, Oxenfree, faut qu'il y aille aussi, hein, parce que c'est très très bien, c'est vraiment très très bien. Et voilà, donc voilà, ZQSD pour bientôt, et on peut me retrouver aussi sur lesnumériques.com pour des sujets beaucoup plus informatiques, on va dire.
Et sur Twitter,
JK
Loret, évidemment.
C'est ça.
Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, NotePatrick sur Facebook. Vous retrouvez cette émission sur FrenchSpin.fr avec d'autres émissions qui pourraient vous plaire. Ça rime, tiens. FrenchSpin.fr, ça pourrait vous plaire. J'ai un slogan tout trouvé. Et vous pouvez également, bien sûr, aller, comme je le disais, sur iTunes ou d'autres catalogues de podcasts pour laisser des reviews sur l'émission. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous file un petit coup de main. On vous remercie de nous avoir écoutés. Moi, je retourne partager mon temps entre Overwatch et Street Fighter V, j'espère. Et je vous dis à dans deux semaines. Ciao à tous.
Salut.